pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Lavergne. Bonjour Jérôme.
Bonjour Benjamin.
Et on termine la semaine avec de nouveau des recrutements ce matin. Et cette question est bien aussi en toile de fond finalement de la difficulté actuellement à recruter.
Tout à fait, avec des secteurs particulièrement touchés. On avait accueilli un cabinet de recrutement il y a quelques temps qui s'appelait Pépite. On pourrait également baptiser de ce même nom tous les candidats en lien notamment avec la comptabilité, la gestion de paye, qui sont de véritables pépites aujourd'hui sur le marché du travail, c'est comme ça. Et c'est toute la nécessité de recourir donc à cabinets de recrutement qui sont spécialisés sur le secteur, comme celui que nous accueillons aujourd'hui.
En l'occurrence, Laurent Schneff, qui est gérant associé du côté d'Habile Ressources. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne.
Bah, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Effectivement, deux sujets en un finalement. La difficulté à recruter d'un côté, on le sait, c'est particulièrement compliqué en ce moment. Et puis dans des secteurs en particulier, notamment la comptabilité. Déjà sur cet aspect comptabilité, quel profil vous recherchez et combien de postes finalement vous cherchez à recruter?
Alors nous avons plusieurs dizaines de postes à pourvoir dans la partie comptabilité et les profils sont, je dirais, multiples. Hein. On a nous-mêmes des recherches pour des clients qui recherchent des gestionnaires de paye, des comptables uniques, des aides comptables, des auditeurs. Donc on a vraiment l'ensemble du panel de ces métiers qui est en forte tension et qui va effectivement nécessiter deux fois plus d'efforts qu'habituellement, on dira, pour des résultats probants.
Est-ce que votre spécialisation sur le marché, fait qu'un certain nombre de candidats viennent à vous, sachant très bien que vous allez être pourvoyeur d'opportunités au sein de vos entreprises clientes qui vont concerner leur profil?
Oui, alors les temps changent évidemment, et aujourd'hui, compte tenu de l'orientation extrêmement tournée vers les candidats savent très bien qu'ils ont le choix, ils sont beaucoup plus courtisés, ils sont beaucoup plus contactés par des entreprises directement. Donc le fait de venir dans un cabinet, ils ont également compris que ça leur permettait d'avoir le choix. Nous avons plusieurs demandes, de nombreuses demandes à vrai dire, et on peut leur offrir le choix. Un gestionnaire de paye qui recherche plutôt à exercer son métier dans un environnement de service, pas très très éloigné de chez lui, et puis avec un certain nombre de critères, plutôt une PME, plutôt une culture orientée performance ou une culture orientée au contraire plus RSE par exemple. Donc voilà, nous on a un panel à leur proposer, et effectivement, compte tenu de l'abondance de la demande et de la faiblesse de l'offre, pas forcément chaque candidat, il a le choix entre plusieurs entreprises qui doivent aujourd'hui se plier à l'exercice d'être attractif.
Une recrudescence du télétravail dans votre secteur ?
Oui, alors nous on est sur des métiers qui sont télétravaillables entre guillemets, à la fois dans les secteurs de la comptabilité. On a une deuxième activité qui est très orientée sur l'IT, c'est-à-dire tous les métiers de l'informatique, et qui d'ailleurs se fondent de plus en plus aussi avec les métiers du capé de la comptabilité, on va dire, sur des gens qui vont être amenés à paramétrer des grosses applications comme SAP, qui vont être amenés à automatiser l'ensemble de la facturation, du recouvrement, etc. Donc on a de très très fortes tensions sur ces métiers-là, mais je crois qu'aujourd'hui l'ensemble du marché est dans la même situation. Et les entreprises se doivent aujourd'hui de courtiser et d'être de plus en plus séduisante pour attirer de bons profils de candidats.
Et ça joue comment justement là-dessus? Parce qu'il n'y a pas que le salaire, j'imagine, qui fait la différence.
Alors non, de notre point de vue, on représente évidemment une petite part du marché. Oui. Mais nous, on voit qu'effectivement, l'intérêt pour le projet qui est proposé par l'entreprise, c'est-à-dire le contenu du poste, c'est un critère majeur qui vient avant le salaire. De plus en plus, on en entend parler, mais nous, on le ressent réellement. Les candidats ont besoin d'avoir du sens dans ce qu'ils font, avoir aussi une perspective d'évolution, d'accompagner l'entreprise, d'avoir un vrai rôle au sein de l'entreprise. Il n'est pas très très possible aujourd'hui de proposer un poste dans lequel on occupe une place, comme à l'ancienne dans les grosses sociétés, on est un pion, on est un numéro, et voilà, ça c'est terminé. Les candidats aujourd'hui veulent avoir un rôle au sein de leur futur employeur. Et puis ensuite, effectivement, on est dans les sujets en ce moment de pouvoir d'achat. Il ne faut pas se cacher, cacher à son petit doigt, comme on dit. Hein. Le salaire, c'est un élément important. Mais c'est effectivement plus, pas forcément le premier critère.
Bon, en tout cas, je renvoie sur votre site internet, hein, c'est abil-ressources-au-pluriel.com. Merci à vous, Laurent Schneff, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, responsable, donc, enfin gérant associé, pardon, d'Abil Ressources. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci également. Au revoir.
Et à bientôt. Merci à vous également, Jérôme Laverny. Bon week-end et à lundi.
À lundi, Benjamin.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
6h24 sur Sud Radio. Tenez, aujourd'hui, on souhaite une bonne fête au Thomas qui nous écoute. Et puis, j'en profite pour souhaiter également un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 28 janvier. C'est le cas notamment de l'acteur Richard Anconina qui fête ses 69 ans. Aujourd'hui encore, de notre ancien président Nicolas Sarkozy. 67e anniversaire pour lui. Et d'ailleurs, pour marquer le coup, je vous propose d'écouter sa toute première apparition à la télévision. Alors, ça date un petit peu. Hein. C'était sur France 3. Nous étions en 1960. 75, deux ans après le premier choc pétrolier. À l'époque, Sarkozy avait 20 ans, oui, tout jeune. Il était étudiant, jeune militant à l'UDR. Écoutez ce qu'il disait à l'époque de cette crise économique.
On nous dit que la crise provient de l'augmentation du prix du pétrole, c'est certain. Oui. Mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. On nous dit aussi que le chômage chez les jeunes tient principalement au fait qu'ils n'ont pas été formés, ou plutôt qu'ils ont été formés à un métier où il n'y avait pas de débouchés. Mais ça aussi, ça va prendre du temps à changer. Alors on va pouvoir chercher de nouvelles sources d'énergie, on va pouvoir changer les modes de formation, on va pouvoir revaloriser les travaux manuels. Tout ça, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et le temps que ces politiques aient produit leurs effets, est-ce que vous ne croyez pas qu'on risque d'arriver dans une société où il y aurait des millions de chômeurs ?
Et oui, et nous y sommes dans cette société aujourd'hui. Il est curieux, avouons-le, de voir que, eh bien, toutes ces années plus tard, finalement, on se pose toujours les mêmes questions avec l'impression de ne pas avoir vraiment totalement avancé. Bon, bref, fin de la parenthèse. Quelques chanteurs aussi dans les anniversaires du jour, à commencer par Jean-Louis Murat, 70 ans aujourd'hui.
Benicatria, mais que fait le roi ? Hello.
Nana, l'un des titres de La vraie vie de Buck John, le dernier album de Jean-Louis Murat sorti à l'automne dernier. L'Auvergnat qui est en tournée en ce moment. Il sera par exemple, tenez, à Aurillac le 2 mars, à Nantes le 24 et puis le 19 avril au Trianon de Paris. Allez, lui aussi chante, lui aussi à 70 ans aujourd'hui. C'est Michael Jones, l'éternel comparse de Jean-Jacques Goldman. Et pour l'occasion, bah, on s'écoute la très belle reprise de Je te donne qu'il nous avait offert sur Sud Radio avec Yvan Cugius.
Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux.
Le duo Yvan Cugius et Michael Jones, petit moment magique qu'on avait vécu il y a 4 ans sur Sud Radio dans le Loft Musique. C'est vrai que ça fait du bien, puis ça fait du bien pour débuter la journée. Allez, 6h27 sur Sud Radio, on continue de se réveiller ensemble dans le petit matin avec à suivre le quintet, les pronostics de Jean-Paul Delperrier, la météo de Rémi André, les infos et puis vous, bien sûr, la vie en vrai, 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio.
5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.
Et le quintet avec les préférés, les pronostics de Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Et on file à l'hippodrome de Pau aujourd'hui.
Ouais, nous sommes dans les Pyrénées aujourd'hui avec le prix René Cramail sur le parcours de haie long de 3800 mètres où ils seront 16 au départ, dont le numéro 11 est Dilly Dancer qui sera ma base. Ce cheval est irréprochable depuis plusieurs mois. Je fais confiance également au 7 Boy Royal, 13 Corrigan Park, l'As Gold Allen, 9 Brick, 16 Conic Gold, 10 Lyon Clermont et 5 Okuzai Valis. 11, 7, 13, As, 9, 16, 10 et 5. Concernant ma sélection du jour, retour du côté de Cagnes-sur-Mer en réunion de 4 courses 6 avec le 3 IMA de Béleb.
Merci beaucoup Jean-Paul Delperrier, vos pronostics à retrouver sur sudradio.fr.
La météo Sud Radio.
Bonjour Rémi André.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
Du gris et du gris dans le ciel aujourd'hui.
Oh oui, c'est-à-dire que l'anticyclone se maintient, donc c'est lui qui continue de piéger toute l'humidité qui nous est arrivée hier avec la petite perturbation et puis celle qu'on avait déjà, et tout cela va se maintenir près du sol. C'est-à-dire que depuis la Bretagne jusqu'au centre, le bassin parisien, le nord, le nord-est, eh bien on a beaucoup de grisailles sous forme de brouillard ce matin car les températures se sont un petit peu radoucies, on est dans le positif. Dans la journée, eh bien on verra que de très rares éclaircies sur toutes ces région. Sur le sud-ouest, et bien là également, tout comme hier, depuis la vallée du Tarn, Montauban, jusque sur toute la vallée de la Garonne, là aussi beaucoup de grisailles et qui se dissipera très lentement en cours d'après-midi par endroits, d'ailleurs en bordure de Garonne, on pourrait garder cette grisaille toute la journée. Et puis sur le relief, les Pyrénées, le Massif central, également sur tous les bords de la Méditerranée, et bien là c'est le soleil qui va dominer avec sur l'ensemble du pays des températures qui deviennent positives et qui seront plutôt comprises entre 4 et 12 degrés.
Eh ben merci beaucoup Rémi André de nous réchauffer un peu l'ambiance. Bon oui, c'est la bonne nouvelle, les températures qui remontent en tout cas. Excellent réveil à tous avec Sud Radio. C'est vendredi, il est 6h31.
Sud Radio. Parlons vrai.
Et c'est l'heure du journal avec vous Marie Dompère. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. Un triste record en France. Les cas de violences sexuelles enregistrés par les forces de l'ordre ont augmenté de 33%. Conséquence certes de la libération de la parole, mais la France a du retard dans la prise en charge de ces agressions. D'où vient le poulet ou le porc qui atterrit dans votre assiette? L'origine des viandes devra bientôt être précisée, que ce soit au supermarché ou au restaurant. Et puis nos voisins européens commencent à regoûter à la vie d'avant. Le pass sanitaire n'est plus qu'un mauvais souvenir au Royaume-Uni ou encore en Catalogne. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Les plaintes pour violences sexuelles ont augmenté de 33% l'an dernier en France. Hausse qui n'était que de 3% en 2020, 12% en 2019. Gérald Darmanin y voit une meilleure prise en charge de ces plaintes par les forces de l'ordre. Alors certes, la parole s'est libérée, mais la France peut encore mieux faire, peut-être en s'inspirant de ses voisins, comme nous l'explique le docteur Emmanuel Piette, présidente du collectif féministe contre le viol.
On devrait faire des centres comme ceux de la Belgique. La Belgique a fait ça depuis 6 ans, c'est-à-dire des centres dédiés à l'accueil des personnes victimes de viol, enfants, femmes et hommes quand ils sont violés, et qui sont d'abord médicaux, et puis donc avec des gens formés, qui font les prélèvements là où il faut, qui accueillent gentiment, enfin tout un ensemble agréable et qui soignent. Et là, si la personne veut, des fonctionnaires volontaires, sélectionnés, formés, viennent recueillir la parole des personnes victimes. Et dans ces conditions-là, en Belgique, ils ont plus de 60% des personnes qui portent plainte. Ici, nous, en France, on est à moins de 10% des personnes qui portent plainte.
Les violences sexuelles qui ne sont pas les seules à avoir connu une hausse l'an dernier, plus 15% pour les escroqueries, 13% pour le trafic de stupéfiants et 12% pour les atteintes à la personne. En revanche, les atteintes aux biens et cambriolages sont en baisse. Toujours à propos de violences, deux hommes ont été placés en garde à vue hier dans le cadre de l'enquête sur l'agression du député LREM Romain Gros, samedi à Perpignan. Il a été pris à partie et aurait reçu des coups lors d'une manifestation contre le pass sanitaire. À Toulouse, l'homme qui s'était échappé des urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan a été arrêté hier. C'est lui qui avait foncé sur des piétons devant un campus universitaire en 2017. 2007. Il est interné à l'hôpital psychiatrique Georges Marchand, d'où se sont enfuis deux autres hommes déjà depuis le début de la semaine, dont un connu sous le nom de Cannibale des Pyrénées. Un coup dur pour Marine Le Pen à moins de 3 mois de la présidentielle. Sa nièce Marion Maréchal Le Pen confesse au journal Le Parisien qu'elle ne soutiendra pas la candidate du Rassemblement National. Et ce, quel que soit le scénario, il se pourrait même qu'elle rejoigne Éric Zemmour. Elle annoncera sa décision d'ici un mois. Du nouveau dans nos assiettes, dans quelques semaines, à partir du 1er mars, l'origine de toutes les viandes servies en France devra obligatoirement être mentionnée. Aujourd'hui, seul le bœuf est soumis à cette obligation. Or, 50% des viandes consommées dans les cantines scolaires sont importées, 60% des volailles en restauration collective. C'est donc une très bonne chose pour le consommateur et les producteurs, comme le reconnaît Joël Limousin, vice-président de la FNSEA.
C'est une très belle avancée, nous le réclamions depuis très longtemps. Aujourd'hui, ça nous permet de ne pas simplement cibler les consommateurs qui vont dans les grandes surfaces, mais ça touche aussi la restauration collective, ainsi que les restaurants. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui permettra aux consommateurs de savoir exactement ce qu'il a dans son assiette et qu'il puisse choisir quand il va dans un restaurant en disant « je veux m'assurer qu'il y a bien du produit français ». Et ça devra être mis sur le menu. Donc je pense que c'est quelque chose de fondamental pour répondre à cet enjeu, un, de souveraineté alimentaire, et deux, de soutenir notre agriculture française.
L'emballage devra aussi préciser s'il s'agit de viande fraîche ou surgelée. L'épidémie de coronavirus, la barre des 130 000 morts liées au virus vient d'être franchie en France. Le nombre de cas quotidiens est toujours au plus haut, près de 400 000 recensés hier. Mais il y a quand même des raisons d'espérer, car chez nos voisins européens, les restrictions s'allègent. On veut reprendre au plus vite une vie normale, François Germa.
Oui, à commencer par le Royaume-Uni. Depuis hier, le masque n'est plus obligatoire en intérieur et le pass sanitaire n'est plus demandé pour les événements accueillant un large public. Le Premier ministre Boris Johnson compte également mettre un terme à l'isolement obligatoire des cas positifs dès la fin mars. Le Premier ministre irlandais, lui, annonce que le pays a surmonté la vague Omicron et a rouvert les discothèques. Au Danemark, les mesures dans les lieux clos seront levées mardi prochain. Le gouvernement danois met en avant sa bonne couverture vaccinale et ne considère plus le virus comme une maladie menaçante pour la société. Quant à la Catalogne, elle supprime dès aujourd'hui le pass sanitaire, jugé tout simplement inefficace face à Omicron.
Chez nous, quelques allègements sont prévus, mais pas avant mercredi prochain. Plus de jauge, plus de masques en extérieur et le télétravail qui ne sera plus obligatoire, seulement recommandé. La pandémie qui aura au moins eu le mérite de faire avancer la recherche sur d'autres maladies. Moderna vient de lancer des essais sur des humains d'un vaccin contre le sida. Vaccin qui utilise la même technologie que celui contre le Covid-19, c'est-à-dire l'ARN messager. Et puis un mot de hand, les Bleus affrontent la Suède ce soir pour une place en finale de l'Euro. Coup d'envoi à 20h30, match que vous pourrez suivre entre autres sur TF1. C'est la fin de ce journal, très bonne matinée avec Sud Radio.
Merci à vous Marie Dompère.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Et un grand merci de vous réveiller en notre compagnie sur Sud Radio. Bah oui, c'est le petit matin, un petit matin dont l'équipe va s'agrandir petit à petit, notamment eh bien, dans quelques minutes à 6h50 avec Cécile Dominibus et Patrick Roger qu'on va accueillir. D'ici là encore, quelques petites choses au programme quand même. Curieux comme Rémi notamment avec le mot du vendredi. Bah oui, c'est vendredi, c'est le mot du vendredi. Et cette semaine, on parlera de ce mot-là, analgésique. Voilà, il nous expliquera un petit peu ce que ça veut dire, même si peut-être que vous savez, vous avez déjà une idée ce que ça veut dire. En tout cas, et puis dans les minutes aussi qui viennent, hashtag on en parle sur Sud Radio, on parlera aussi de cette polémique aux États-Unis qui provoque un tollé, une BD, une bande dessinée sur l'Holocauste qui a été censurée dans une école du Tennessee. On y reviendra là aussi dans quelques instants. Mais tout d'abord, on rejoint Judith Belair pour Un jour, un métier. C'est tout de suite sur Sud Radio.
Copropriétaire, propriétaire, votre toit vaut de l'or. Vendez votre droit de surélévation, financez vos travaux de rénovation énergétique, renforcez votre trésorerie, créez de nouveaux logements avec Valerti. Estimation gratuite de votre droit de surélévation sur valerti.com. Valerti vous présente...
Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair.
Aujourd'hui, on ouvre une lignée d'esthètes dont je vais vous parler dans Un jour un métier. On parle bien d'esthétisme. Et cette semaine, on part à la découverte du métier d'architecte d'intérieur et de designer avec Frédéric Crouzet. Bonjour et bienvenue Frédéric Crouzet.
Bonjour Judith.
Bonjour. Alors Frédéric Crouzet, vous vous définissez vous-même comme un sculpteur d'espace. Racontez-nous pourquoi.
Écoutez, dans notre métier, quand on travaille sur des espaces pour des particuliers, il y a beaucoup de paramètres qui petit à petit rentrent en jeu. Et j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui est lumière, optimisation de l'espace, une forme, enfin, d'ergonomie, de se sentir bien dans les espaces dans lesquels les clients vont vivre. Donc, je pense que on sculpte petit à petit l'espace pour l'adapter et donner du sens.
Vous l'adaptez pour vos clients, en fait. C'est du sur-mesure que vous faites, Frédéric Crouzet.
Voilà, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. De toute façon, je pense qu'un vrai travail, un travail de designer et d'architecte d'intérieur, c'est vraiment prendre au départ écouter les besoins des clients, et essayer de comprendre leur façon de vivre, au-delà de la décoration d'ailleurs. C'est vraiment comment ils vivent, comment aujourd'hui il y a énormément de changements dans les familles monoparentales. On essaie d'optimiser les surfaces et
tout ça,
les volumes.
Ça joue sur l'espace de vie, on imagine, ouais, les conditions de vie elles aussi. Hein.
Voilà, l'espace de vie, aujourd'hui aussi avec tout ce qui est le numérique, les tablettes, presque les espaces de réception sont complètement changés. L'appréciation d'un espace de réception aujourd'hui n'est pas le même qu'avant. On ne parle pas aujourd'hui de salle à manger, forcément. Il y a des lieux de rencontre qui sont, c'est vrai, aujourd'hui beaucoup plus, on va dire, des espaces qui peuvent être la cuisine, avec des espaces repas. Mmh. Les choses sont aujourd'hui plus traversantes. Voilà. Il y a moins de séparation bien définie, bien qu'il en faut toujours, parce qu'il faut toujours garder bien sûr de l'intimité pour chacun.
Mais ça circule plus qu'avant, quoi, c'est ça que vous voulez dire.
Voilà, ça circule plus qu'avant. Et le fait aussi de parfois faire rentrer la lumière est un bon vecteur de circulation. Voilà,
d'accord.
Un bon maillage.
D'accord. Et alors, pour devenir architecte d'intérieur et designer, Frédéric Crouzet, est-ce qu'il faut forcément passer par une école? Est-ce que vous avez fait une école vous-même?
Oui. Alors, il y a des écoles, bien sûr. Moi, je suis passé, j'ai pris quelques chemins de traverse, en commençant par les Beaux-Arts en peinture, donc à Paris, mm-hmm. et avec des spécialisations d'architecture. Mais quelqu'un au départ qui était assez curieux, donc j'ai fait beaucoup de j'ai travaillé sur pas mal de aussi bien de la sculpture, de la fresque, de la mosaïque, des huiles d'architecture.
Toutes les matières, quoi, différentes matières.
Je pense qu'au-delà des écoles, ce qu'il faut surtout, c'est être très curieux. Il faut s'intéresser à l'art en général, à la création, à la créativité, aux designers, aux plasticiens. C'est ça qui permet de former l'esprit, et pour peu qu'on aime, et de travailler sur le dessin, parce que je pense que tout part d'un dessin. Voilà, ça vaut beaucoup mieux qu'un long discours.
Oui.
Et ensuite, ça permet d'exprimer la pensée. Voilà, il faut.
Donc, vous exprimez la pensée de vos clients par des dessins, en fait.
Exactement.
Et vous passez du temps avec eux, du coup, pour pouvoir l'exprimer de la bonne manière, on imagine aussi.
Tout à fait. C'est du temps, et c'est un lien de confiance qui s'instaure petit à petit, et grâce justement au dessin, à ces visuels graphiques qui permettent aussi petit à petit au client de s'impliquer. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le client s'implique. Voilà. Il n'y a pas d'imposition. On n'impose pas, on suggère, on guide, et petit à petit, il faut que le client fasse sien le projet. Voilà. Il faut qu'il se l'accapare. Et c'est très important dans le processus d'ailleurs d'une bonne création et d'une bonne réalisation de chantier.
Merci beaucoup Frédéric Crouzet. Pour ceux qui ont envie de découvrir vos univers et votre travail, vous avez un site internet qui est www.frédéric-crouzet.fr, Frédéric avec un C et Crouzet Z-E-T à la fin. Voilà, et je suppose qu'il y a la totalité de vos réalisations dessus.
Voilà, il y en a quelques-unes en tout cas, oui. En tout cas, merci beaucoup Judith.
Merci à vous Frédéric, à très bientôt, bonne journée.
À bientôt, merci, au revoir, bonne journée.
Merci.
Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair.
Vous a été présenté par Valerti, copropriétaire. Propriétaire, votre toit vaut de l'or. Vendez votre droit de surélévation. Financez vos travaux de rénovation énergétique. Renforcez votre trésorerie. Créez de nouveaux logements avec Valerti. Estimation gratuite de votre droit de surélévation sur valerti.com.
Et Judith Belair, à qui l'on dit à dimanche, bah oui, à dimanche soir sur Sud Radio, à partir de 19h pour l'émission C'est Excellent. Pour l'heure, 6h43, on rejoint Rémi André.
Sud Radio, curieux comme Rémi, Rémi André.
Curieux comme Rémi, avec aujourd'hui le petit mot du vendredi. Et cette semaine, ce mot, c'est analgésique. Pour ce qui est de la définition, un analgésique ou antalgique, c'est un médicament qui prévient ou diminue la sensation de douleur. Bon Rémi, ça c'est pour la définition, mais c'est quoi plus précisément ?
Alors déjà, on peut dire que les analgésiques les plus courants délivrés sans ordonnance sont l'aspirine, le paracétamol et l'ibuprofène. Je crois que tout le monde les connaît. Au-delà de ça, d'autres études sont menées sur d'autres types d'analgésiques. La recherche médicale s'intéresse à des molécules présentes dans les venins des animaux qui pourraient devenir les analgésiques de demain. C'est le cas par exemple du venin du serpent corail, du black mamba, un cobra, ou d'un poisson tropical, le Meacanthus gramiste.
Bon alors, on a tous un jour déjà pris des analgésiques, mais Rémi, ils ne sont pas tous les mêmes. Il faut le dire.
Alors en effet, tout dépend de leur puissance. Les antalgiques de niveau 1 pour les douleurs légères à modérées, c'est-à-dire l'aspirine, paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène. Les antalgiques de niveau 2 pour les douleurs modérées ou sévères sont la codéine ou le tramadol. Les antalgiques de niveau 3 pour les douleurs intenses qui résistent aux autres antalgiques sont la morphine, dérivée de l'opium également, le fentanyl ou l'oxycodone. Alors attention, le médecin, avant de prescrire un analgésique, doit évaluer le niveau de douleur du patient. Il est important de suivre la prescription de son médecin lors du traitement afin d'éviter les surdosages.
Et oui, on évite bien sûr l'auto-prescription. Merci beaucoup Rémi André et à tout à l'heure avant 7h pour faire un point cette fois-ci sur la météo. 6h45 sur Sud Radio. Dans quelques instants, Cécile de Minibus et Patrick Roger qu'on va accueillir. Mais avant cela, hashtag on en parle, on reviendra. Je ne sais pas si vous connaissez cette bande dessinée qui s'appelle Mouse, qui parle de l'Holocauste, eh bien, cette BD, elle a été censurée dans une école du Tennessee aux États-Unis. On y revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.
5h-10h, le grand matin Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
6h47 sur Sud Radio. Je suis déconcentré par Cécile de Minibus, mais vous inquiétez pas, on va le faire. Ce rappel des titres. Ils ont battu le pavé, comme promis, 150 000 manifestants dans toute la France, selon les syndicats mobilisés pour les salaires et le pouvoir d'achat. Le ministère de l'Intérieur parle, pour sa part, de 89 000 manifestants. Discours mémoriel et message politique hier en Pologne pour Jean Castex. Le Premier ministre commémorait les 77 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Journée internationale en mémoire des victimes de la Shoah. Le chef du gouvernement a rendu
hommage aux 76 000 juifs français déportés durant la guerre avec la complicité active de l'État français, a-t-il souligné. Et puis une troisième fugue d'un individu dangereux dans un hôpital psychiatrique en une semaine à Toulouse. Un homme de 33 ans s'est échappé hier, cette fois-ci de l'hôpital Purpan. Les forces de l'ordre ont pu le retrouver quelques heures après sa fuite. Et tout de suite, avant de retrouver Cécile Omnibus et Patrick Roger, hashtag on en parle sur les réseaux sociaux. Je vous le disais à l'instant, hier c'était la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et à ce sujet, une actualité n'est pas passée inaperçue aux États-Unis. Elle a même entraîné une vive polémique au point de faire la une de la plupart des chaînes d'information, comme ici sur CNN.
Joining us now is the Pulitzer Prize winning graphic novelist who wrote Mouse.
La journaliste ici qui accueille Art Spiegelman. Alors qui est-il ? Eh bien, c'est l'auteur d'une célèbre bande dessinée qui s'appelle Mouse et qui traite de l'extermination des Juifs. Une BD qui a été couronnée du prix Pulitzer et plébiscitée par les lecteurs du monde entier. Mais voilà, une école du Tennessee a décidé de retirer Mouse du programme des élèves de 4e en cause de son contenu jugé inapproprié. Le conseil d'administration de l'école explique « Nous pouvons enseigner l'histoire aux élèves, mais nous n'avons pas besoin de nudité de tous ces autres trucs. » Alors, rappelons que dans cette BD, en fait, ce ne sont pas des êtres humains quand on parle de nudité, puisqu'on parle d'animaux, puisque effectivement, cet auteur utilise des animaux comme eh bien, les souris d'un côté, et qui sont censés représenter les juifs, et puis les chats qui sont censés représenter les nazis. En tout cas, eh bien, cette explication du conseil d'administration, elle n'a pas convaincu Spiegelman, l'auteur qui a répondu ceci cette fois-ci sur MSNBC. Ils se sont uniquement focalisés sur quelques petits jurons qui apparaissent dans le livre. Mais comment j'aurais pu imaginer que le mot « mince » aurait pu suffire à éjecter la BD d'une école ? Alors, il le dit, on l'entend un peu avec le sourire. Cependant, l'auteur a vivement critiqué le conseil d'administration de cette école qui a pris sa décision à l'unanimité. Ici, il explique, je traduis, ce qui est si déroutant avec les membres de ce conseil d'administration, c'est qu'ils sont stupides. Je ne sais pas s'ils sont nazis, mais ils sont stupides d'avoir censuré cette BD. D'ailleurs, un chiffre pour conclure, selon un sondage publié en 2020 et qui montre peut-être l'intérêt d'une telle bande dessinée. Près d'un quart des jeunes américains pensent encore que l'Holocauste est un mythe. Ça laisse quand même songeur. Allez, 6h50 sur Sud Radio. Tout de suite, on accueille Cécile Omnibus et Patrick Roger.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile Omnibus.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick,
bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, j'ai un secret pour vous, c'est vendredi. Voilà.
C'est vrai, vendredi, le dernier vendredi du mois de janvier. Voilà, nous fêtons quel saint aujourd'hui ?
Thomas.
Alors, bah, écoutez,
ça vous parle,
passez.
Peut-être,
ouais. Oui, de bonnes fêtes.
On en connaît
évidemment beaucoup.
Ça va nous coûter cher en texte.
En ce vendredi, que vous dire ? Beaucoup de choses évidemment encore dans l'actualité que nous allons aborder tout à l'heure. Peut-être une déclaration qui ne va pas passer inaperçue et qui pourrait avoir un rôle assez fort dans la campagne électorale, pesée énormément. C'est Marion Maréchal, au détour de petites phrases dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. La nièce de Marine Le Pen qui hésite. Elle le dit en fait très clairement, elle ne sait pas si elle va se prononcer ou pas pour Éric Zemmour ou Marine Le Pen. A priori, ce ne sera pas pour Marine Le Pen. C'est ce qu'elle laisse entendre.
Même, hein.
Elle ne sait pas, en revanche, si elle apportera clairement et officiellement son soutien à Éric Zemmour, parce qu'elle a quelques réserves, hein, c'est ce qu'elle dit. Et puis alors, en même temps, elle est enceinte, elle le dit, en fait, de 4 mois. Elle arrivera, en fait, à terme, justement, au moment des élections législatives, au mois de juin. Donc, elle parle, elle s'exprime. Marion Maréchal, nous verrons ça tout à l'heure, parce que si c'est vrai que si elle annonçait un ralliement à Éric Zemmour, ça pourrait peser pour la suite. Mais elle dit quand même qu'elle ne veut pas de nouvelles fractures dans sa famille. Il y en a déjà eu beaucoup. Nous verrons ça, nous en parlerons évidemment tout à l'heure. Je poserai la question aussi à notre invité politique, ce qu'il en pense. Aurélien Taché. Alors lui, il était à gauche, il est passé chez Emmanuel Macron et maintenant il est revenu à gauche, mais chez les Verts. Soutien de Yannick Jadot, l'un de ses conseillers, porte-parole. Donc il sera avec nous tout à l'heure à 8h15. Et dans l'actualité ce matin, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé, moi, sur la politique. C'est assez exceptionnel. Ça se passe en Italie. C'est Rocco Siffredi. Il se présente aux élections présidentielles. Parce que ça fait quand même 3 tours là, que les Italiens essaient de choisir et de trouver en fait, leur président. Ils n'ont toujours pas trouvé. Et ben, lui, il s'est déclaré hier, et le plus sérieusement du monde, on l'écoutera en fait, tout à l'heure, parce qu'il dit, on sait qu'au fond, que j'ai fait plus de bien à l'Italie que beaucoup de politiciens. Ouais, eh ben oui. Ça, oui. Et donc, okay. Eh ben je me présente quoi. Non mais à quand le Rocco si Freddy en France.
Non.
Allez, tout à l'heure donc le journal. Juste avant ça, le regard sur les entreprises.
Absolument, Sud Radio à votre service.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Et les entreprises, un entrepreneur, un directeur général de Réparstore ce matin, Guillaume Varobieff, bonjour.
Bonjour Madame de Minibus, bonjour auditeurs.
Vous êtes, votre cœur de métier, c'est la réparation des rideaux électriques et des stores chez les particuliers et les professionnels.
Oui, tout à fait. On répare, on motorise, on modernise les volets roulants et les stores, les volets roulants étant notre cœur d'activité.
Alors c'est un enjeu écologique.
Chez les particuliers.
Oui, chez les particuliers, bien entendu. C'est un enjeu écologique de ne pas remplacer finalement les choses et de leur donner une seconde vie. Et je crois que pour vous, c'est vraiment un enjeu.
Oui, il y a 72 millions de volets roulants, 10 millions de stores. Et oui. Il y a 12 ans, quand on a créé Réparstore, notre vision, c'était prolonger la vie des volets roulants et des stores plutôt que de les remplacer. Pourquoi remplacer quand on peut réparer ? Aujourd'hui, c'est le cas et c'est ce qu'on fait depuis 12 ans. Donc évidemment, c'est le remploi des produits existants, la réparabilité, c'est le premier pas écologique avant même le recyclage.
Alors vous, vos franchisés sont beaucoup et très nombreux sur le terrain. La proximité avec le client, c'est aussi un gage de confiance. On le sait, c'est important aussi pour vous.
Oui, d'autant que dans le monde de l'artisanat, il y a assez d'opacité, peu de transparence. Donc,
c'est vrai.
Avec nos franchisés, on a un concept très transparent en termes de déplacement, de devis gratuits, de politique tarifaire et de devis immédiat sur tablette, donc digital. Donc tout ça, évidemment, rassure nos clients de nous appeler, puisque tout est transparent.
Et vous, bien sûr, vous parlez des particuliers, la qualité de l'intervention aussi sur Réparstore, c'est aussi la rapidité, puisque vous trouvez très souvent des solutions immédiates, et c'est ce qu'attendent, j'imagine, vos clients.
Exactement, on prend un rendez-vous immédiatement, on se déplace aux 48 heures, et dans 80% des cas, on peut réparer immédiatement, voire changer un moteur. Oui. Votre volet roulant, un moteur qui est hors service, on a le moteur en remplacement dans le camion immédiatement.
Et sur l'image de l'entreprise aussi, on sait que vous avez à cœur de veiller sur le bien-être de l'entreprise avec un nouveau siège social, avec des commodités à disposition des salariés. C'est un plus pour le recrutement aujourd'hui.
Oui, et aujourd'hui, on travaille justement sur l'employabilité de la marque parce que nos 210 franchisés ont déjà 100 collaborateurs et cette année, vont embaucher encore environ 70 collaborateurs. Donc, on veut faire connaître la marque, le métier, le fait que c'est accessible à tout le monde sans expérience et qu'on forme à ce métier de technicien. Voilà, donc,
Formation aujourd'hui pour tous ceux qui veulent une reconversion, par exemple?
Alors, pour devenir franchisé, c'est 6 semaines de formation initiale et on forme complètement à devenir chef d'entreprise. Avec un apport de 5 000 euros, le franchisé peut devenir, la personne peut se reconvertir et devenir chef d'entreprise. Pour les collaborateurs, ça va être 2 mois de formation sur le terrain et une semaine théorique.
Et là, en ce moment, vous recrutez?
On recrute, on n'arrête pas. Et donc, si les auditeurs veulent se reconvertir et n'ont pas de compétences particulières dans le bâtiment, ils peuvent nous rejoindre, on les formera avec grand plaisir.
Et filles et garçons, bien entendu. Merci beaucoup, Guillaume Varobieff, d'avoir été avec nous.
Vous.
Et merci pour cette
bonne
belle journée. Entreprise. Directeur général de Réparstore, restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, c'est vendredi. On s'occupe de vous jusqu'à 10h, à tout de suite.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.